il y a quand même du respect, il y a du respect et de la peur. Voilà.
D'accord.
Ah oui.
Donc ceux-là, ils n'ont pas été étudiés.
D'accord.
Il n'y a aucun ethnologue qui les a rencontrés. Il y a quelques évangélistes et André Cogna.
D'accord. Oui. Les évangélistes.
Qui sont en Guyane. Alors je ne connais pas les évangélistes de métropole, mais ceux qui sont en Guyane, oui, ils sont vraiment très spéciaux. Hein. André Cogna, il ne voulait pas les voir dans le village. Il leur avait dit. Bah, surtout qu'ils mentent et que les Wayana, ils croient tout ce qu'on leur dit. Ouais.
Là, on a la représentation, justement, d'Antekumpata. C'est une île, en fait,
oui,
c'est ça, île. Qui est environnée de différents cours d'eau. Enfin, on a l'impression de...
Oui. À cet endroit-là, le Maroni fait 1 kilomètre de large, sauf qu'on a l'impression qu'il est tout petit parce qu'il y a plein d'îles. Mm-hmm. Il y a des dizaines d'îles. Alors ça, c'est l'île principale, Antekumpata. En largeur, elle fait à peu près 3 minutes à pied. Pour la traverser. Et en longueur, ça dépend de la saison. En saison des pluies, ça va être 1 quart d'heure. En saison sèche, ça peut être 1/2 heure.
D'accord.
Parce que l'eau se retire assez loin. Donc l'école, elle était là et moi, j'habitais là. Voilà.
Près de l'eau.
Oui.
Près de...
Ah ouais. J'aurais pu aller à l'école en kayak, mais je ne pouvais pas parce que descendre, c'était facile, mais après, il fallait remonter le. Et là, il y a du courant.
L'école était où ?
Là. Ça, c'est la maternelle.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et là, c'est la classe de CP. En fait, chaque classe, c'est un bâtiment.
Les bâtiments, c'est des bâtiments comment ?
En bois.
Comment ?
Alors, Antekumpata, ils sont en bois avec une toiture en bois, mmh. Avec des tuiles. Alors, j'en ai une qui est là. Voilà, c'est des tuiles en bois.
D'accord.
C'est très pratique. Parce que, par exemple, à Taluen, c'est des toits métalliques. Et quand il pleut, eh ben, on ne peut pas faire court.
Ah oui, trop de bruit.
Oui, et donc je peux dire qu'en 2 ans à Taluen, il a plu 3 fois le matin. C'est tout.
C'est peu.
Parce qu'il ne pleut pas le matin. Mmh. Il pleut de 14h à 6h du matin. En saison des pluies. Hein.
D'accord.
Voilà. Mais parce que quand il pleut, ce n'est pas comme ici. C'est la douche à fond, quoi. Voilà. Donc c'est intenable sous les toitures en... Et il fait moins chaud. Et je m'en suis rendu compte parce que mes élèves à Taluen, à partir de midi, ils avaient des gouttes de transpiration sur le visage, alors qu'à Antekum, ils n'ont jamais eu de gouttes de transpiration.
D'accord.
Donc les écoles sont en bois. Il y a en général un rez-de-chaussée avec une classe. Et puis à l'étage, il y a une autre classe. Et la classe de l'étage, elle n'a pas de mur. Donc c'est comme une grande terrasse avec un toit.
D'accord.
Ce qui veut dire que tout s'envole dès qu'il y a un coup de vent. Donc les élèves, eux, ils savent gérer. Moi, la première fois, évidemment, j'ai tout perdu. Les copies que je corrigeais, elles étaient dans le fleuve. Mais eux, ils savent gérer tout ça. Voilà.
On n'a pas l'impression d'être enfermé.
Ah oui, non, c'est magnifique. Il y a le fleuve qui est juste en dessous, là. Il y a ce petit courant d'air qui permet de rafraîchir. Parce qu'évidemment, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ventilateur. Il n'y a pas de lumière non plus. Donc, en saison sèche, ça va. Mais en saison des pluies, on ne voit rien sur le tableau. Et puis, en saison des pluies, parce qu'on écrit toujours à la craie là-bas. Hein. Donc, la craie, en saison des pluies, elle passe son temps à se casser. Et il ne faut jamais laver le tableau parce qu'il ne sèche pas. Il faut le laver le soir en espérant qu'il soit sec le lendemain. Voilà. Bon, ça, c'est des petits trucs. Ce qui était difficile à l'école... C'était les fournitures scolaires. Alors ça, c'était un cauchemar. Mmh. La première année, elles sont arrivées en décembre. Après, elles sont arrivées en janvier. Elles peuvent arriver au mois de mars. Des fois, elles arrivent au mois de mai pour la rentrée d'avant. Mmh. Quand elles arrivent. Je me rappelle, une fois, j'avais commandé 800 euros de matériel de sport. On a reçu 2 ballons en mousse pour 800 euros.
D'accord.
J'ai commandé 40 000 euros de matériel informatique. Il n'est jamais arrivé. 40 000 euros, c'est pas rien. Il y a de l'argent, hein, c'est oui. Pas 40 000 euros pour 4 classes.
C'est perdu quelque part.
Voilà. Alors justement, un jour, le recteur était venu avec le responsable de l'informatique du rectorat qui me dit « Ah ben, monsieur le directeur, j'aimerais bien voir les élèves travailler sur le matériel informatique ». Je dis « Mais je vous ai dit qu'il n'était pas arrivé ». Il me dit « C'est pas possible ». Donc on appelle la mairie. Les tablettes, en fait, la mairie nous apprend qu'elles étaient arrivées en décembre, et là, on est au mois de juin. C'est-à-dire qu'il y a 2 heures de pirogue pour nous apporter les tablettes. Elles étaient toujours stockées quelque part dans la mairie, en sachant que là-bas, le matériel électronique, il ne dure pas très longtemps. Donc ça se trouve, quand elles vont arriver, elles sont déjà foutues, quoi.
Ça fait partie des aléas.
Voilà, ça c'est le problème, c'est le matériel scolaire. Pas le gros matériel, par exemple le matériel scientifique, on en avait beaucoup parce que là-bas on a beaucoup de visites. Le muséum, le Quai Branly, on a des scientifiques qui viennent, des ethnologues, et donc à chaque fois ils nous font des cadeaux. Donc ils
D'accord.
apportent des livres, on avait des très belles bibliothèques dans les écoles, et puis on avait aussi pas mal de matériel scientifique. Parce qu'ils viennent avec du matériel et ils nous le laissent.
D'accord. Vous-même, est-ce que vous avez écrit un livre?
Oui.
Vous avez écrit un livre intitulé À l'ombre du Tucushipan, récit en terre Wayana, aux éditions Ibis Rouge.
Oui.
Est-ce un travail d'anthropologue, de notes ou avant tout voilà, un récit tout simplement de ce vécu?
Alors en fait, quand je suis parti là-bas, je me suis dit, il faut que je raconte ce que je vais vivre, quoi. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'avais un groupe d'amis à qui j'envoyais des mails toutes les semaines pour raconter ce que je faisais. Et en fait, chaque mail, c'était un des chapitres du livre. Et donc, à la fin de la première année, j'avais un livre de prêt. Et il y en a deux. Le deuxième, il est pas encore sorti. J'espère qu'il sortira. Il est prêt. Et le premier, c'est la saison des sèches, donc de septembre à janvier. Et le deuxième, c'est de janvier à juillet, la saison des pluies. Voilà. Alors là, c'est pas un travail d'ethnologue, hein. Je raconte le quotidien d'un directeur. Je raconte les problèmes de fourniture scolaire, les problèmes d'électricité à l'école. Parce qu'en fait, c'est l'école française. Et personne ici ne s'imagine qu'il y a des écoles en France où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de toilettes. Qu'il y a des fions de chauve-souris partout et que les élèves y sont nu-pieds, qu'il n'y a pas d'eau. On n'imagine pas une école sans eau, mais quand il n'y a pas d'eau, les élèves, quand ils reviennent du sport, qui fait 30 degrés, ils dégoulinent. Et je me rappelle, moi, la première fois, dès que je pouvais, je faisais des réserves d'eau chez moi, puis je leur donnais de l'eau, mais je ne pouvais pas faire ça tous les jours. On ne s'imagine pas du tout la vie des classes là-bas. Voilà, donc j'ai voulu raconter ça. Et dans le deuxième qui sortira, j'espère, un jour, je parle plus des Wayanas et de la forêt.
D'accord.
Voilà.
Dont on vient de parler en
Oui,
partie.
voilà. Oui.
D'accord.
Parce que, bon, c'est beaucoup plus intéressant que l'histoire de l'école. C'est un peu démoralisant, l'école, quoi. Enfin, le fonctionnement.
Le fonctionnement de
Oui.
l'école, ouais, qui est tout à fait différent, enfin, pas tout à fait différent, mais qui
Bah,
à
qui est
qui, du coup.
parasité, ouais, parasité par ses problèmes de matériel. Par exemple, le photocopieur, bon, quand il n'y a pas d'électricité, il ne fonctionne pas. Donc, quand il y a de l'électricité, bah, il ne fonctionne plus, parce que ça fait des mois qu'il n'a pas fonctionné, donc il est en panne. Donc, on en reçoit un neuf. Moi, en 6 ans, j'ai utilisé 5 photocopieurs neufs.
D'accord.
Ça donne un ordre d'idée, hein.
Ah,
Ouais.
pardon.
Oui, un par an. Et à chaque fois, il y avait des problèmes de cartouches d'encre, parce que la mairie ne commande pas de cartouches d'avance. Et par exemple, la dernière fois que j'ai commandé des cartouches, je les ai commandées, j'ai anticipé avant qu'elles tombent en panne. J'ai commandé en janvier et jusqu'en juillet, je les ai commandées 4 fois. 4 fois, la mairie, elle m'a demandé les références du photocopieur et des cartouches d'encre, alors qu'ils avaient mes mails. Et j'ai su qu'en septembre, elles n'étaient toujours pas commandées, parce qu'ils ont redemandé les références des cartouches à la nouvelle directrice.
D'accord. Des problèmes de logistique
Oui,
qui pourraient être.
qu'on n'imagine pas ici.
Très bien. Un fonctionnement d'école, donc vous, qui malgré tout, ça fonctionne. On
Ben
réussit à,
voilà, ça
on réussit à,
fonctionne.
vous avez réussi à enseigner, j'imagine, mais.
Oui, et comme du coup ça fonctionne, ben, l'administration, elle fait pas grand-chose puisque ça fonctionne. Alors, par exemple, une fois à la préfecture, ils se sont rendus compte quand même que ça n'allait pas. Donc, ils nous ont dit, on va envoyez-nous le nombre d'élèves par tranche d'âge et on va préparer un petit paquet pour chaque élève avec le minimum légal pour travailler. C'était en septembre. Le matériel, il est arrivé quand dans le village? Sachant qu'il est parti de Cayenne en septembre. Il arrive au mois de mai.
D'accord.
Bon, l'année était finie.
Ouais.
Donc, on l'a gardé pour la rentrée d'après. C'était déjà ça, quoi. Bon, il y a plein de dysfonctionnements comme ça, où c'est un peu casse-pied, quoi. L'histoire des chauves-souris, par exemple. L'histoire des toilettes. Moi, j'avais écrit pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Les élèves, ils ne peuvent pas aller aux toilettes parce qu'il n'y a pas d'eau pour nettoyer. Il y a des crottes de chauves-souris partout, donc ils vont au fleuve. Mmh. Qui est responsable s'il y a un accident? Puisqu'ils vont au fleuve seuls, on ne peut pas laisser nos classes. Évidemment, personne ne répond. Le rectorat ne peut pas répondre à une question comme ça. Donc j'ai écrit au préfet. Et un directeur, il n'a pas le droit de faire ça. Mmh. C'est le recteur qui écrit au préfet, ce n'est pas le directeur. Donc ça a fait un scandale phénoménal. Mais en attendant, une semaine après, les travaux étaient faits. Les toilettes étaient réparées, il y avait de l'eau, il n'y avait plus de fientes de chauves-souris. Voilà.
D'accord.
Donc, des fois, il faut taper du poing. Mais là, bon, ils ont pas du tout apprécié au rectorat. Je me suis fait des ennemis, hein, à tous les étages.
Et pour l'apprentissage, la pédagogie, avec les élèves, comment cela se passait?
Alors, c'est souvent des classes où, à plusieurs niveaux. Donc très vite, ils deviennent autonomes. Alors déjà, ils sont complètement autonomes à l'extérieur, parce que les enfants, ils vont au fleuve tout seuls. Il n'y a pas d'adultes qui surveillent. Moi, la première fois où je suis allé me baigner dans le fleuve, je venais d'arriver, j'étais vert, parce que je voyais des enfants, il y avait des enfants de 4 ans qui étaient tout seuls dans le fleuve. Et puis je regardais autour de moi, il n'y avait personne pour surveiller, quoi. Et puis eux, ils rigolaient. Et donc, ils sont complètement autonomes. En classe aussi, ils se débrouillent tout seuls. Et quand ils arrivent au collège, les professeurs du collège nous disent « il faut que vous leur appreniez l'autonomie ». Et en fait, dès qu'ils arrivent au collège, ils perdent tous leurs moyens. Parce que ils vont se retrouver avec les bonis. Et les bonis, c'est tout le contraire des wayanas. C'est-à-dire que les wayanas, quand ils parlent tout doucement. Si toute la classe bavarde, on n'entend rien. Ils ne vont jamais lever la main, il faut vraiment les interroger, il faut les tirer les verres du nez. Alors que les bonis, c'est tout le contraire, eux. Ils parlent très fort, donc ils vont écraser les wayanas. Et puis les wayanas, du coup, ils perdent tous leurs moyens, ils ne vont pas poser de questions, et puis ils perdent leur autonomie.
D'accord.
Alors quand ils arrivent au collège, ils sont plutôt bons, enfin bons, entre guillemets, hein, par rapport aux bonis. Et puis petit à petit, ils vont entrer dans le moule et puis ils vont avoir un niveau quand même très très moyen.
D'accord.
Voilà, pour pas dire faible. Parce que
les bonis, est-ce que vous pourriez nous rappeler?
Alors les bonis, ce sont les descendants des esclaves du Suriname. Alors pourquoi pas les esclaves français? Parce qu'au Suriname, apparemment, les Hollandais traitaient très mal leurs esclaves, plus mal que les Français. Et donc, ils ont fui le Suriname. Et ils ont remonté le Maroni. Et à ce moment-là, c'était au XVIIIe siècle, ce qui s'est passé, c'est qu'en Guyane, il y a un bateau de négriers qui est arrivé avec des esclaves qui transportaient, sans le savoir, une souche de palus qui n'existait pas en Guyane. Et c'était l'hécatombe. Chez les Kalinas, donc les Amérindiens qui étaient sur le littoral, chez les créoles, chez les esclaves des Français, et chez les Français, qui étaient des Normands. C'était beaucoup de Normands. Et là, il y a eu des dizaines de milliers de morts. Et quand les bonis se sont enfuis du Suriname et qu'ils sont arrivés, les Français avaient autre chose à faire qu'à chasser les esclaves du Suriname, ils ont remonté le Maroni, et là, ils ont trouvé des villages vides, des abatis qui étaient prêts, vides. Et donc, ils ont remonté le Maroni tranquillement pendant que les Wayanas, eux, le descendaient. Et c'est après qu'ils vont se retrouver à Maripasoula, qui est la frontière virtuelle entre le monde des bonis en aval et le monde des wayanas en amont.
D'accord.
Voilà. Okay. Alors, ils ont des fois des points communs, les abatis, le grand mans, ça c'est commun. Et puis, par contre, c'est des gens qui parlent très très fort.
À la différence des Wayanas.
Oui, une classe de Boni, moi, j'aurais du mal. Ils sont gentils, hein, mais ils parlent fort. Ils ne savent pas parler doucement.
Très bien. Et qu'est-ce que vous avez pu découvrir vous avez découvert énormément de choses, mais d'un point de vue pédagogique, quelque chose qui vous a étonné, certaines choses qui ont pu vous étonner l'enseignement avec les Wayanas.
Alors, ils ont un sens de l'observation qui force le respect. Alors, en forêt, bon, évidemment, ils voient plein de choses que nous, on ne voit pas. Et je m'en suis rendu compte, par exemple, en géométrie. Une fois, j'avais dessiné au tableau une figure géométrique assez complexe. Et puis, je leur distribue une feuille quadrillée. Et je leur dis, vous représentez cette figure en sachant que... Alors, elle était représentée dans un carré, que le côté mesure 10 cm. Et je m'assois à côté d'une élève, qui n'était pas une élève performante, hein, c'était une élève... voilà. Elle a regardé le dessin une fois, et elle l'a reproduit. Alors que moi, pour le reproduire, je ne sais pas combien de fois j'avais regardé mon modèle. Voilà. Des fois, régulièrement, on regardait des films, et donc je leur demandais d'écrire un texte sur le film, et puis il y en a qui ne savaient pas écrire, donc ils faisaient un dessin. Mais le dessin, je pouvais dire exactement... À quel moment du film c'était ? Les regards, c'était ça, quoi. Ils sont très bons observateurs et ils dessinent très, très bien aussi.
Quel en est le souvenir, j'imagine ? C'est une expérience qui change la vie aussi. Quel en est votre... en quelques mots.
Là-bas, j'ai vécu mes plus belles années professionnelles, hein, pendant 6 ans. Ça a vraiment été une autre spécificité. Alors, c'est tous les Wayanas, mais en particulier les enfants, c'est l'humour. Mm-hmm. On riait beaucoup en classe. Hein. Je me rappelle, par exemple, quand on faisait de l'orthographe, on faisait des dictées. D'abord, les mots, on les dictait sur l'ardoise pour voir l'orthographe. Et je me rappelle, une fois, il y avait soleil. Et il y avait 3 élèves, elles lèvent leur ardoise et elles avaient dessiné un soleil. Donc, elles avaient bon, j'avais dit soleil. Hein. Donc, je dis, ouais, c'est bien. Voilà. Non, pour moi, ça a été mes plus belles années professionnelles, quoi. Mon regret, c'est de ne pas être parti plus tôt, là-bas. Non. Mais parce que j'ai fini par m'habituer à la chaleur. Pas tant que ça, puisque je suis revenu, je n'ai pas voulu passer ma retraite là-bas parce qu'il faisait trop chaud, mais... en y travaillant, je pense que j'aurais pu passer encore quelques années là-bas, si j'étais venu plus tôt. Là, j'avais atteint l'âge où je commençais à régresser, à être fatigué. Donc, je me suis dit, j'arrête. J'ai arrêté à 64.
Donc plus tard que prévu.
Un instit, largement plus tard, ouais. Et je ne regrette pas. C'est vraiment des moments extraordinaires.
Eh bien, merci.
Merci.
Yann Bloyer pour cet entretien, ces entretiens autour de votre expérience d'instituteur, de professeur des écoles avec les Wayanas dans les villages de Taluen et Antekumpata, en Guyane.
Pata, ça veut dire village. Pata. Et Antekumpata, ça veut dire le village d'Antekum. Parce qu'en fait, les villages portent le nom du fondateur. Donc Taluen a été fondé par Taluen, Pidima par Pidima, Kayode par Kayode, voilà.
Signaler que vous avez publié un ouvrage intitulé « À l'ombre du Tukusipan », récit en terre Wayana. Le Tukusipan, rappelez-nous, c'est vraiment le lieu important.
C'est la salle commune. Enfin, ça, on ne dit pas une salle commune quand on... C'est pas comme ici, quoi. C'est pas une salle polyvalente, mais c'est une espèce de gros dôme qui est au centre du village et c'est là qu'ils se réunissent pour prendre les décisions. C'est là qu'il y a les fêtes aussi. Et puis, ça sert de lieu pour recevoir les étrangers quand ils veulent dormir. C'est là qu'on installe les hamacs. Il y a de quoi installer les hamacs. Donc, des fois, il peut y avoir une dizaine de hamacs, là.
D'accord. D'où, à l'ombre du Tukusipan, le titre de ce livre.
Voilà.
Récit en terre Wayana, aux éditions Ibis Rouge.
C'est une maison d'édition guyanaise.
guyanaise, d'accord. Et dont il y aura un second tome.
Bah, j'espère. Là, il était prêt, je voulais l'envoyer à l'éditeur, et puis je l'ai relu, parce que ça, je l'avais écrit il y a des années, et entre-temps, j'ai appris beaucoup de choses, donc je suis en train de réécrire des parties. Ouais. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Yann, pour cet entretien.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'en n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce, quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait me claquer entre les doigts la garce. À 7 minutes, 5 vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est -20 ou -5. À 7 minutes, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À 7 minutes, 2 policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À 7 minutes, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À 7 minutes, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Traduisez.